Alors, chers amis, c'est une joie d'être ici à plusieurs titres. D'abord parce que j'ai fait toute ma formation à Paris, à l'école cathédrale. Et donc, l'école cathédrale, c'est quand même une fille de l'IET. Et je ne suis jamais venu ici. Donc, c'était la première fois. D'une certaine manière, j'ai tout reçu de l'IET. Et voilà, c'est la première fois que je viens. Deuxième chose, c'est une joie parce que, comme vous le savez, les jésuites ont une mission particulière auprès du cœur de Jésus. Jésus, c'est assez rare quand même qu'il demande aux jésuites une mission particulière, et notamment de faire connaître le cœur de Jésus. Donc c'est une joie pour moi d'être ici, d'être accueilli. Mais en même temps, j'ai eu la chance de pouvoir dîner avec mes frères jésuites. Je n'ai pas l'expérience et le travail intellectuel des jésuites sur le Sacré-Cœur, sûrement. Donc je vais vous donner, de par la mission qui m'est confiée au sanctuaire, je vais vous partager ce que j'ai pu comprendre pour l'instant du cœur de Jésus et d'entrer dans ce mystère avec ce thème, hein, consoler le Christ, et de reprendre ce mystère du parrainemonial et du cœur de Jésus dans ce plan sur la miséricorde que nous avons vu. Alors si vous me permettez, en ce 8 décembre, je vous propose qu'on se confie à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a un double titre dans l'enseignement que je vous donne ce soir. Il y a « Consoler le Christ » et « Parrainemonial et le cœur de Jésus ». Alors je vais d'abord, avant d'entrer dans le consoler le Christ, qui est un des thèmes des apparitions de Jésus à Parrainemonial, une des demandes de le consoler, je vais resituer quand même Parrainemonial et le cœur de Jésus dans ce plan sur la miséricorde. J'ai oublié un petit détail dans ma présentation, pardon. Ce n'est pas un défaut d'un français, c'est un défaut de celui qui parle. Je parle vite et je n'articule pas forcément très bien. Ne généralisez pas trop vite. Mais donc si je parle trop vite, vous me le dites. D'accord ? Simplement pour que j'aille plus lentement. Donc, pour resituer un peu dans ce thème de la miséricorde, vous avez plusieurs approches bibliques notamment, aussi avec les philosophes païens, et puis vous avez regardé saint Augustin. Moi, j'aimerais resituer ce fort thème de la miséricorde dans un ensemble plus large et de remonter de Sainte Gertrude jusqu'à aujourd'hui. Sainte Gertrude d'Efta, en 1302, reçoit des apparitions privées du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur, voilà, des apparitions privées de Jésus, et notamment, elle fait l'expérience de Jean, le disciple bien-aimé, en se reposant sur le cœur de Jésus. Donc on est vraiment au tout début du XIVe siècle. Et elle s'interroge en disant, mais elle interroge Saint Jean en fait. Saint Jean, comment se fait-il que dans ton évangile, tu ne déploies pas ce que j'expérimente, cette grâce du cœur de Jésus, les battements du cœur de Jésus que je touche du doigt, là, que j'expérimente dans mon cœur. Pourquoi tu n'en as pas parlé longuement dans ton évangile? Et Jean lui explique que ce n'était pas sa mission. Sa mission, vous avez un peu l'extrait, sa mission était de présenter à l'Église, dans son premier âge, sur le Verbe incréé de Dieu le Père, une simple parole qui suffirait jusqu'à la fin du monde à satisfaire l'intelligence de la race humaine tout entière. Il faut mettre ça, on est dans un langage de 1302. Hein. Donc, ma mission, c'est de faire comprendre le mystère du Verbe incarné. Dieu se fait homme et il demeure au milieu de nous. Et ma mission est de le faire connaître aux hommes. Mais il poursuit en disant, un temps viendra. Alors, c'est là qu'il y a deux traductions. Moi, j'avais fondé au départ sur un ouvrage du père Guiton sur Saint-Claude de la Colombière, un des saints de Parrainemonial. Il disait « Un temps viendra dans les temps modernes », mais il semblerait que le mot de Jésus à Sainte-Gertrude, c'est déjà dans les temps actuels. « Un temps viendra où il sera révélé les pulsations de ce cœur dans les temps modernes, quand l'amour sera refroidi. » Je reprends la citation du père Guiton. Faire connaître la suavité de ses pulsations a été réservée pour les temps modernes afin que la révélation de ses merveilles réchauffe le monde vieillissant dans l'amour, dont l'amour s'alanguit. D'accord ? Donc, nous avons une expérience en 1302 de Sainte Gertrude qui repose longuement sur le cœur de Jésus, qui découvre tout l'amour de Jésus pour elle. Les battements du cœur de Jésus, dans la même expérience que Saint Jean. Pourquoi ce mystère n'est pas révélé encore et tout le monde n'est pas plongé dans ce mystère de miséricorde, de la miséricorde de Dieu ? Et Saint Jean lui explique, un temps viendra dans les temps modernes où l'amour se refroidira, alors il révélera les pulsations de son cœur. Donc on peut dire que ces temps modernes, a priori, déjà à l'époque de Sainte Gertrude, on rentre dans ces temps modernes où l'amour s'alanguit, où l'amour se refroidit, mais nous voyons 3 siècles plus tard, en 1673, que Jésus vient se révéler à Marguerite Marie, normalement, je devrais dire une charolaise, mais une charolaise aujourd'hui, vous savez, hein, c'est une grosse vache blanche qu'on aime bien dans nos assiettes. Donc, on dirait une femme du pays de Charolles, une jeune fille du pays de Charolles, qui est rentrée au monastère de la Visitation, récemment fondée par François de Sales et Jeanne de Chantal. En 1673, Marguerite Marie va recevoir, elle aussi, une apparition du cœur de Jésus, lui révélant l'amour de son cœur. Et dans ces apparitions, on ne va pas rester au stade de l'apparition privée, comme pour Gertrude, mais nous allons avoir une demande d'une fête pour toute l'Église. Jésus va demander l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Donc nous avons un élargissement profond d'une expérience personnelle que Gertrude a déjà touchée du doigt, voyez, en demandant à ce que toute l'Église vive cette fête du Sacré-Cœur. Et donc que toute l'Église puisse toucher du doigt et que le monde entier puisse connaître les merveilles de l'amour du cœur de Jésus. 17e siècle. Sainte Marguerite Marie, je ne sais pas quelle image vous avez un peu de Sainte Marguerite Marie. Des fois, elle vit au cœur du jansénisme. Donc sa manière de répondre à ce cœur de Jésus va des fois être marquée par cette culture du jansénisme. Des fois, elle aura un peu d'excès dans sa manière d'aimer le Seigneur et de le suivre et de vouloir le consoler. À tel point que Jésus lui dit de temps en temps, ce n'est pas moi qui te demande cela. C'est même plus violent, après elle dit, ça c'est le diable qui te l'inspire. Jusque-là c'était pour moi, après c'est pour le diable. Bon d'accord, alors je ne vais pas être comme ça. Vous voyez, mais en tout cas, elle a un désir d'aimer le Seigneur et de le faire aimer. Et elle le fait des fois avec excès, ce qui fait que quand on lit une vie de Sainte Marguerite Marie, des fois ça ne nous détend pas trop. On ne voit pas trop les douceurs du cœur de Jésus quand on lit cette vie-là. Mais on peut voir aussi comment ce thème va se déployer. Avec Sainte Marguerite Marie, un jésuite, Saint-Claude la Colombière, lui a envoyé, va être son père spirituel pendant 18 mois, et puis va l'accompagner plus ou moins par les écrits. Il va mourir quand même assez jeune. Et ce jeune jésuite, Claude la Colombière, va être défini au moment de sa canonisation par le pape Jean-Paul II comme l'apôtre de la confiance. Ce mot de confiance, c'est un mot que nous connaissons bien, mais en général, si je dois vous poser la question, qui est l'apôtre de la confiance ? On ne dirait pas Saint-Claude. On dirait plutôt Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Qui va déployer. Et donc on a Claude et Marguerite Marie qui sont plongés déjà dans ce mystère du cœur de Jésus et aussi de la confiance. Vivant cette réparation que je vais déployer tout à l'heure. Un peu plus tard, 19e siècle, nous avons Sainte-Thérèse qui me semble, à mon avis, déploie ce mystère, ces apparitions. Enfin, cette compréhension du cœur de Jésus. Dans la lettre 122 qu'elle écrit à sa sœur Céline, alors que Céline vient vivre un pèlerinage à Paray-le-Monial avec Léonie, ils viennent tous les deux en pèlerinage, et Thérèse lui écrit une lettre. Alors vous n'avez pas la référence, je vous la donne, elle n'est pas sur le texte. Et Thérèse écrit à Céline, « Ah, tu vas à Paray-le-Monial, présente-moi bien au Sacré-Cœur. Tu sais, moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Et elle reprend tout un discours sur cette très belle lettre. Et quand on lit cette lettre et qu'on connaît le message de Paray-le-Monial, vous avez tout le vocabulaire des apparitions. D'une certaine manière, le Sacré-Cœur qui va pouvoir être marqué souvent d'une dimension un peu doloriste, un peu, si je peux me permettre l'expression, un peu sanguinolente, voyez, l'image du cœur de Jésus, Thérèse, l'enfant Jésus, va le remontrer comme ce qui fait profondément l'expérience de Marguerite, Marie, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. L'expérience du cantique des cantiques. Donc Thérèse me semble être une des personnes qui va redéployer dans son charisme propre Eh bien, c'est ce message du cœur de Jésus. Un peu plus tard, nous avons à Cracovie, eh bien, ces apparitions à Sainte Faustine, 1931, très proche du camp d'Auschwitz, du futur camp d'Auschwitz, très proche d'Osvésime, à peu près à 50 km d'Osvésime, 10 ans avant l'ouverture du camp, eh bien, Jésus vient se révéler à Sainte Faustine et lui demander particulièrement la fête de la miséricorde, avec un accent particulier de prier pour les pécheurs. Intercéder et prier pour les pécheurs. De prier pour les pécheurs. On pourrait dire, de la même manière que Thérèse déploie un peu le message de Marguerite Marie et de Saint Claude, que Jean-Paul II va nous déployer ce message de la miséricorde. Et cette année, nous venons de terminer cette année sainte de la miséricorde présentée par le pape François, proposée par le pape François. Alors, ce chemin que je vous présente à travers les siècles vient sur une insistance justement sur ces temps modernes où l'amour se refroidit. Et cette insistance aujourd'hui où nous entendons le pape François nous dire « mais c'est le temps de la miséricorde ». C'est le temps de la miséricorde dans « Miséricordiez-vous tous », le document qu'il nous avait donné en introduction de l'année de la miséricorde. Il utilisera plusieurs fois cette expression « le temps de la miséricorde ». C'est le temps notamment d'annoncer l'évangile de manière renouvelée. C'est le temps de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Voilà, plusieurs fois, il reprend ce thème du temps, le temps de se laisser toucher au cœur. Dans plusieurs numéros de « Miséricordiez-vous tous », je cite par exemple le 4, je vous ai cité le 4, le 10, le 15, le 19, mais vous retrouvez aussi dans le 18. Plusieurs moments, cette insistance sur ce temps. Le temps est venu d'entrer dans la miséricorde. Alors, j'aime bien refaire à travers ce fil rouge, vous voyez, il y a comme pour moi, un déploiement du mystère pascal. Vous savez bien que dans les apparitions, il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà contenu dans les Écritures. Il n'y a plus rien à attendre de nouveau. Et donc, dans les apparitions, que je vais me concentrer sur Marguerite Marie, mais dans ces apparitions, nous avons un déploiement du mystère pascal. Fête du Sacré-Cœur. Alors, d'abord, il faudrait introduire avec Sainte Julienne du Mont-Cornillon, qui n'a pas une apparition. C'est pas une apparition. Jésus ne vient pas la voir explicitement pour lui dire « je veux la fête du Saint-Sacrement hein. ». Vous savez que c'est dans cette vision qu'est là, mais ce n'est pas une apparition de Jésus. En gros, aujourd'hui, il n'y a que deux apparitions dans le monde où Jésus demande une fête. C'est la fête du Sacré-Cœur et la fête de la Miséricorde. En tout cas, pour l'instant, reconnue par l'Église. Mais nous avons avec Sainte Julienne du Mont-Cornillon une ouverture sur le Jeudi Saint, la demande de la fête du Saint-Sacrement. Avec Sainte Marguerite Marie, nous entrons dans le Vendredi Saint, avec cette expérience profonde du cœur ouvert de Jésus. La charité ici, qu'elle ne voit pas juste un cœur, c'est ce cœur ouvert, c'est l'expérience de Jean, sur lequel je vais revenir. Et nous sommes donc dans cette contemplation du côté transpercé de Jésus. Marguerite Marie, à son tour, voit le cœur de Jésus ouvert et nous plonge dans ce mystère du Vendredi Saint, avec une particularité, s'il y avait un apôtre à associer au message du cœur de Jésus, c'est Saint Jean, le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, et tout le thème de l'amitié va être déployé profondément dans ce message. On pourrait continuer en travaillant un peu, ça va être le centenaire cette année des apparitions, mais on pourrait dire que Fatima pourrait être comme un samedi saint, avec une invitation à la conversion. Et la fête de la miséricorde, célébrée le dimanche après Pâques avec l'évangile de Thomas, nous plonge dans cette dimension, « Mets ta main dans mon côté, Jésus apparaît à ses disciples, leur dit paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus reconduit ses apôtres qui l'ont tous abandonné. Et nous voyons cette miséricorde. Voilà. Miséricorde de Jésus pour ses apôtres, mais aussi miséricorde de Jésus qui invite à pardonner. Tous ceux à qui vous aurez remis les péchés, leur seront remis. Tous ceux à qui vous les retiendront, ils leur seront retenus. Jean chapitre 20. Donc vous voyez, en faisant le fil rouge, nous voyons ces différentes fêtes qui succèdent et qui nous aident à plonger plus profondément au cœur du mystère pascal. Donc du Jeudi Saint au dimanche de la Résurrection, avec cet axe particulier, avec ces deux grandes fêtes, du Sacré-Cœur et de la Miséricorde, du Vendredi Saint avec Saint Jean, et du dimanche de Pâques avec Thomas. Je me suis permis d'aller jusqu'au pape François dans mon déploiement historique avec cette année de la Miséricorde, Parce que, vous savez, d'abord que, justement, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Jésus, après la mort de Saint-Claude la Colombière, Marguerite Marie va avoir une vision et elle va entendre cet appel, cette mission particulière des Sœurs de la Visitation et des Jésuites de faire comprendre la dévotion au Sacré-Cœur. Il y a 30 ans, exactement, le pape Jean-Paul II venait à Paray-le-Monial en pèlerinage et, dans la chapelle Saint-Claude, faisait venir le général des Jésuites et leur rappelait « Je vous rappelle que Jésus vous a confié la mission d'annoncer le Sacré-Cœur. » 30 ans plus tard, on a un pape jésuite qui nous donne une année de la miséricorde. Le cœur de Dieu qui se penche sur la misère. Je pense que tout se passe bien, vous voyez. Quand on regarde ce déroulement historique, ce déploiement dans l'histoire, a priori, il y a bien un sens dans lequel nous sommes entraînés. Alors, voilà d'abord ce déploiement du mystère pascal. Le deuxième aspect encore que je voulais indiquer, c'était ce déploiement de la figure du disciple bien-aimé. Lorsque, à la fin de la première apparition de Jésus à Marguerite Marie, eh bien, Jésus va dire à Marguerite Marie cette parole: si jusqu'à présent tu n'as pris que le titre de mon esclave, je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Il ne faut pas voir la première partie de manière un peu violente. Si jusqu'à présent tu n'as pris que le titre de mon esclave. Marguerite Marie a fait le choix de rentrer à la Visitation pour être, comme on le dit, une fille de Marie. Marie va en hâte visiter Élisabeth, la Visitation. Et donc, toute sœur qui rentre à la Visitation a le désir d'entrer dans cette vocation d'être une fille de Marie. Et donc Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et donc Marguerite Marie se dit « Eh bien, Marie va m'apprendre à être la servante du Seigneur ». Et Jésus lui dit « C'est bien, jusqu'à présent tu n'as pris que le titre de ma servante, de mon esclave, c'est le même mot, mais je veux qu'on aille plus loin. Je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur ». Et donc c'est une invitation à plonger dans l'expérience de ce disciple bien-aimé qui justement va être aussi formé par Marie. De la même manière que Marie peut t'apprendre à être la servante du Seigneur, Marie va t'apprendre à être la disciple bien-aimée, à être le disciple bien-aimé de son cœur. Puisque à la croix, Jésus va être confié, Saint Jean va être confié à sa mère. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Saint Jean est vraiment, à mon avis, le fil rouge de ces apparitions de Jésus à Marguerite Marie. Chaque apparition, nous pouvons voir, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans la feuille de route, derrière chaque apparition, un moment fort de la vie de Saint Jean. Une expérience de Saint Jean. Alors, vous avez déjà eu quelques aspects sur Saint Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent Saint Jean, en tout cas, je sais que c'est une conférence théologique, mais je vais me permettre de glisser lors du témoignage, c'est que Saint Jean, c'est quand même pour moi quelqu'un d'un peu... C'est l'homme parfait par excellence. C'est le bon élève. Comme on le dit chez nous, c'est un peu le chouchou, quoi. C'est celui qui est proche de Jésus, il est toujours à la bonne place. Vous voyez, tout le monde a abandonné Jésus, mais lui, il est au pied de la croix. Il court plus vite que Pierre au tombeau. Personne ne reconnaît Jésus après la résurrection, mais il y en a un dans la barque qui reconnaît, c'est Saint Jean. Vous voyez, et Saint Jean est tout contre Jésus pendant le dernier repas. Donc pour moi, Saint Jean, ça peut être un peu le personnage un peu inaccessible, vous voyez. Et je ne sais pas comment vous vivez cette figure de Saint Jean, mais on peut s'identifier à tous les apôtres. Est-ce que vous vous identifiez à Saint Jean? Est-ce que des fois vous dites, Seigneur, je veux être ton disciple bien-aimé? Ou est-ce qu'il vous semble être un peu inaccessible? Eh bien, dans cette apparition à Marguerite Marie, Dieu nous invite à rentrer dans cette joie d'être aussi ses disciples bien-aimés. Vous voyez? Et la grâce qui est faite à une sainte, elle est faite pour toute l'Église. Donc nous sommes invités à plonger dans cette figure de Marguerite Marie et de Saint Jean, dans l'expérience qu'ils ont. Le deuxième titre de mon enseignement, c'est « Consoler le Christ ». Alors, ça peut sembler un peu prétentieux de consoler le Christ, et on peut se demander de quoi le Christ a-t-il besoin d'être consolé puisqu'il est Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme le thème de « Dieu souffre-t-il » tous ces thèmes-là qu'on peut déployer en théologie. Alors, peut-être que sur ce thème de consoler les Christ, ça va reprendre essentiellement la dimension de la deuxième apparition, mais ça reprend aussi profondément l'attitude première que je vais déployer. Parce qu'au fond, avant d'être le consolateur, avant d'être celui que nous allons consoler, Dieu est le consolateur. Et les textes de l'Écriture nous le montrent avec force. Et j'aurais aimé d'abord citer ce texte de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos tribulations. L'expérience de Marguerite Marie, avant de consoler le Christ, va être d'être consolée par le Christ, d'être consolée par Dieu, de laisser Dieu la consoler. Mais nous verrons que justement, laisser Dieu nous consoler, c'est peut-être le consoler, que de lui laisser l'accessibilité à nous consoler. Alors dans les grands textes de consolation dans l'Écriture, vous voyez, hein, moi je vous invite surtout à retourner voir Isaïe, Isaïe chapitre 49 verset 13, « Le Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. » Isaïe 51, 12, « C'est moi celui qui vous console. » Isaïe 52, 9, « Pousse des cris de joie, car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. » Ou encore Isaïe 54, 10, « Les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. » Quand je suis venu, j'étais dans le Talis, et j'avais cette parole-là sous les yeux, et puis ma voisine commençait à regarder un peu ce que je faisais. J'ai du coup tourné tout de suite mon ordinateur, je lui ai dit, « Regardez ce texte-là, c'est extraordinaire, hein, vous en pensez quoi ?» C'est vrai, je suis le Seigneur Dieu qui te console. Voilà, d'abord Dieu est le consolateur. Comme celui que sa mère console, moi aussi, je vous consolerai. Alors, Dieu profondément est consolateur, mais comment est-ce qu'on peut consoler le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Écriture? Où est-ce qu'on retrouve dans l'Écriture ce thème un peu de consoler le Christ? Eh bien, alors, je pense dans les Lamentations, bien sûr, on n'a pas d'application de consoler Dieu. Mais il y a des figures dans l'Écriture qui peuvent nous aider à comprendre comment consoler Dieu. Dans les Lamentations, c'est un peu compliqué puisque c'est Sion qui n'est pas consolé et en même temps, Sion, c'est Dieu qui l'a un peu repris juste après. Donc, j'ose pas trop citer le texte de Lamentations 1-2, mais vous retrouvez ce thème-là. Mais dans le Siracide, il y a un beau texte qui dit « La prière de l'humble pénètre les nuées, tant qu'elle n'est pas arrivée, il ne se console pas. » Tant que la prière de l'humble n'est pas arrivée jusqu'au ciel, il ne se console pas. Et là, on peut voir le Christ. Le Christ qui est l'humble, doux et humble de cœur, et qui ne se console pas tant que sa prière n'arrive pas au ciel. Et quelle est la prière de Dieu? Je veux que tous les hommes soient sauvés. Je veux faire miséricorde, que toute personne puisse accueillir ma miséricorde. Vous voyez? Et donc, nous pouvons contempler ce cœur de Jésus, l'humble par excellence, qui ne se console pas. L'autre texte qui m'a inspiré, voilà, c'est la figure de David. Il est dit en 2 Samuel 13, 39, « L'esprit du roi cessa de s'emporter contre Absalom, car il s'était consolé de la mort d'Amnon. » Donc Absalom a tué son frère. Bon, le père ne s'est pas consolé. Mais vous pouvez déployer ça après la mort d'Absalom. Absalom, Absalom mon fils, Absalom. Vous voyez David, Absalom mon fils Absalom. Celui qui voulait me tuer est mort. Et au lieu de dire « bien fait pour lui », « mon fils Absalom », il ne s'en remet pas. Vous voyez, c'est l'arme du roi David qui peut nous aider à comprendre aussi ce qui habite le cœur de Jésus. « Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. » Alors, nous pouvons faire ce parallèle entre David et puis le nouveau David qui est Jésus. Et pour vous aider à le faire, s'il y en a encore besoin, eh bien, j'aimerais citer le Concile Vatican II, à ce numéro 22, que vous connaissez sûrement. Pour dans ces bâtiments, on doit le lire pratiquement tous les jours. « Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec les mains d'un homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté humaine, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. » Il est devenu semblable à nous, à tout, hormis le péché. Et en citant cela, le Concile met en référence ce texte d'Hébreux, de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, qui dit « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses. » Alors ça, c'est un peu la dimension de Dieu pour nous, mais la deuxième partie est aussi intéressante. « lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à nous, à l'exception du péché. Alors nous, on voit tout de suite à l'exception du péché. Mais d'abord, la lettre aux Hébreux dit qu'il a été éprouvé en tout d'une manière semblable à nous. D'une manière semblable à nous. Donc si nous sommes éprouvés, eh bien le Christ aussi a été éprouvé, et donc nous pouvons consoler le Christ. Rentrer dans cette consolation. Alors, je vais maintenant rentrer dans ces trois apparitions. Je vais reprendre simplement les trois apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie pour vous montrer comment nous rentrons dans cette consolation et pour vous montrer aussi ce que Jésus déploie de ce mystère de son cœur. Et lorsque j'accueille des pèlerins à Paray-le-Monial, j'aime bien le dire. Alors, on est dans une conférence plus théologique, donc ce n'est pas la même attitude, mais nous sommes là aussi pour nourrir nos cœurs. Et donc, d'entendre ce que Jésus dit à Marguerite Marie, non pas comme à une sainte, mais comme s'il vous le disait à chacun d'entre vous. D'accord ? Toutes les apparitions de Jésus à Marguerite Marie ont lieu alors qu'elle prie devant le Saint-Sacrement, pas toujours exposée, mais elle est en train de prier dans la chapelle. Et il y aura un lien très fort entre le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus et l'Eucharistie. La fête même du Sacré-Cœur étant demandée par Jésus dans l'octave qui suit la fête du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, le corps livré pour nous, et le cœur de Jésus, signe de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, le lien entre ces deux fêtes. Et dans sa première apparition, Marguerite Marie est en train de prier dans la chapelle, et voilà le récit qu'elle fait de cette apparition. Vous l'avez sur vos feuilles. Une fois parmi d'autres, alors que... Je vais vous le raccourcir un peu, mais vous pourrez le reprendre paisiblement. Une fois parmi d'autres, alors que j'étais devant le Saint-Sacrement, et que j'en avais un peu de loisir, parce que les occupations ne m'en laissaient guère, je fus investi tout intérieurement de sa divine présence. Il me fit découvrir les merveilles de son amour qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Il me fit reposer sur son cœur. Voilà l'expérience de Marguerite Marie, le récit qu'elle en fait. Alors Marguerite Marie n'est pas une femme qui a beaucoup d'extase, c'est une fois parmi d'autres. Il y a cette fidélité de Marguerite Marie dans la prière. Et une fois, Jésus vient la saisir. Marguerite Marie ressemble à beaucoup d'entre vous, beaucoup de notre génération, puisque comme beaucoup, nous sommes occupés par de multiples tâches. Et elle dit aussi qu'elle avait peu de loisirs, parce que les occupations ne l'en laissaient guère. Mais l'expérience forte de Marguerite Marie, c'est de dire « Et il me fit découvrir les merveilles de son amour qu'il m'avait toujours tenu caché. » Marguerite Marie, qui est religieuse, qui est déjà rentrée dans qui est au monastère, peut dire qu'elle connaît tout. Qu'est-ce qu'elle va encore apprendre ? Et elle dit « Je découvre les merveilles de son amour. » Attitude fondamentale d'accueillir un mystère nouveau qui se dévoile. Est-ce que nous sommes aussi dans une attitude de découverte ou dans une attitude de, comme j'aime bien le dire, de mettre des notes? En fait, j'écoute une homélie pour mettre une note à celui qui prêche. Mon père, c'était pas mal aujourd'hui, hein. Ouais, vous avez un peu travaillé là cette fois, hein. Ou est-ce que je suis en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire découvrir que je n'ai pas encore compris? Et nous voyons ici Marguerite Marie qui découvre cela. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle dit, il me fit reposer sur sa divine poitrine. Et donc nous retrouvons ici l'expérience fondamentale de Jean. Elle repose longuement sur le cœur de Jésus. La grâce de Paray-le-Monial, la première grâce de Paray-le-Monial, c'est de se reposer. Ça, vous retrouvez ici forcément le texte de Saint Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Voilà, prenez sur vous mon joug. Venez à moi, vous tous qui peinez. La grâce, voilà. Jésus se penche sur notre misère, et nous sommes invités à nous remettre notre misère. Reposer sur le cœur de Jésus. Alors, elle repose sur le cœur de Jésus, justement comme Saint Jean. Vous l'avez entendu lors de l'enseignement sur Saint Jean, mais j'aimerais le réévoquer, peut-être pas tout à fait de manière aussi littérale. Quand le disciple bien-aimé est tout contre Jésus, il utilisait un mot que l'on retrouve qu'une fois dans l'évangile de Jean, c'est le mot du kolpos, il a été évoqué déjà. Et donc, on dit que tout contre... Alors dans nos Bibles, c'est écrit tout contre Jésus, mais dans le texte... Dans le texte du prologue, on peut retrouver ce verset-là. Dieu nul, Jean 1, 18. Dieu nul ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et en fait, c'est le même mot. Jean était tout, le disciple bien-aimé était tout contre Jésus. Était contre le sein de Jésus. Et donc saint Jean nous invite à faire une relation entre ces deux termes, que je me permets de faire à travers un autre verset de saint Jean, qui est « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Quelle est l'expérience de Jean à ce moment-là? Eh bien, Jean nous renvoie, quand il est contre le sein de Jésus, à l'expérience de Jésus lui-même dans le sein du Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père lui l'a fait connaître. Pour nous aider, peut-être que nous pouvons nous rappeler le baptême de Jésus. Le Père se révèle à Jésus, il lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Qu'est-ce qui habite le cœur du Père? Dans le cœur du Père, nous avons Jésus. Quand nous ne savons pas quoi faire dans l'oraison, pensons à Dieu le Père et comment le Père aime Jésus. Eh bien, saint Jean expérimente sur le cœur de Jésus qu'il est aimé de Jésus comme Jésus est aimé du Père. Comme si Jésus pouvait lui dire « Tu es mon disciple bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » L'expérience de Jean, c'est de reposer sur le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qui nous repose profondément? Eh bien, c'est de découvrir cet amour de Jésus. Et Marguerite Marie le dira, ce n'est pas seulement un amour intellectuel, une compréhension intellectuelle, mais rentre dans une autre dimension, la relation de l'amour de Jésus pour. Alors, c'est peut-être là le premier aspect de la manière de consoler Jésus, dans lequel nous sommes invités à rentrer de plus en plus, et le pape a voulu insister aussi là-dessus dans cette année, sur la manière dont nous accueillons la miséricorde de Dieu pour nous. Comment nous consolons le Christ en laissant venir nous consoler? Moi, je veux te donner le repos. Est-ce que toi, tu veux l'accueillir? Et la première expérience est vraiment sûrement celle-là. En tout cas, c'est l'expérience fondamentale de Parelmonial, qui est souvent oubliée, parce que souvent on passe très vite à tout ce qu'on va entendre sur les reproches de Jésus, les ingratitudes, les mépris, les froideurs, sur lesquels je vais arriver. Mais avant cette question des reproches, il y a d'abord cette attitude fondamentale de Marguerite Marie qui repose sur le cœur de Jésus et qui découvre cet amour de Jésus pour elle. Alors à cette expérience de Marguerite Marie sur le cœur de Jésus va se joindre une déclaration de Jésus. La déclaration est longue, mais on est au siècle des mousquetaires et donc on n'envoie pas seulement un texto pour déclarer sa femme à celle qu'on aime. On a du texte et nous pouvons entendre ce beau texte. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes ardentes de sa charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. Alors le texte se poursuit, mais vous avez là l'essentiel du début. Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Voilà, cette expérience de cette passion de Jésus pour nous. Est-ce que nous comprenons, nous touchons du doigt cet amour passionné de Jésus pour nous? Et donc Marguerite Marie comprend cela. Son cœur est passionné d'amour et c'est un cœur de feu. Suite à cette parole, alors je ne prends pas le déployer parce que je suis dans un cadre théologique, on pourrait le déployer de plein d'autres manières, mais voilà, de prendre conscience, c'est un enjeu assez fort pour nous, je pense, de prendre le temps de réaliser cette passion de Jésus pour nous. De sortir un peu d'une dimension seulement intellectuelle et de désirer cette expérience que Marguerite Marie fait de cet amour pour lui. Et c'est peut-être un grand combat de croire que Seigneur Jésus, tu es passionné d'amour pour moi. Alors, dans le message du cœur de Jésus, justement, c'est là que Dieu nous donne saint Claude la Colombière, le jésuite qui va recevoir les apparitions de Marguerite Marie, qui va les intégrer, j'aimerais dire les digérer, et les retransmettre à ceux qui les entourent. Et notamment, il va écrire un acte de confiance. Alors, je ne vous l'ai pas mis là, pardon, ça aurait été bien. Mais, vous voyez, Claude, profondément, a pris conscience que rien ne peut le séparer de l'amour du Christ. Et il le fait notamment dans cet acte de confiance où il dit à Dieu « J'ai décidé de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. » J'ai décidé de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Alors nous, on le dit bien en théorie, mais je me décharge sur toi de toutes mes inquiétudes, mais j'assure mes arrières quand même un petit peu. Hein, parce que... Alors, en même temps, Claude ne dit pas « Je n'ai pas d'inquiétude. » Hein. Alors, ici, je suis en Belgique, donc ça ne marche pas, mais en France, quand on vous demande ça va, ça va. Ici, peut-être, je ne connais pas bien, donc en général, vous osez dire ce que vous portez, mais en France, il ne viendrait pas de dire ça va. Ah non, non, ça ne va pas du tout, je déprime complètement en ce moment. Si tu connaissais toutes mes histoires et toutes mes galères, je m'en sors plus du tout. Ah non, ça, ça ne se fait pas. Non. Alors ici, c'est en France, alors Claude lui dit, bah, si j'ai des inquiétudes, et le Seigneur, je te les présente, voilà, je te présente mes inquiétudes. Et il va déployer dans sa prière trois aspects qui sont: les hommes peuvent me ravir et mes biens et mon honneur, donc perte de ses biens et de son honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces de vous servir. Seigneur, tu m'aimes, mais si tu m'aimes, pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai ces épreuves dans ma vie? Vous voyez toute la situation humaine qui font qu'on a du mal à croire à cet amour passionné de Jésus pour nous. Et autre troisième aspect, je pourrais perdre la grâce par le péché, je ne perdrai pas mon espérance. Donc dans ces trois aspects, il dit: je ne perds pas ma confiance, même si je tombe malade, même si je perds tous mes biens, même si je perds mon honneur. Et en fait, Claude ne va pas faire que prier, il va vivre sa prière dans sa vie, dans sa mission. Il va être envoyé à Londres, au milieu d'autres frères catholiques qui vont être martyrisés. Eh bien, il va tomber gravement malade, il va être jeté en prison, il va perdre ses biens et son honneur. Et lui qui pourrait faire cet acte de foi en disant: Seigneur, vous allez me guérir, puisque forcément je suis votre apôtre, donc forcément vous avez besoin de moi, eh bien va mourir à 41 ans, et il dira de sa maladie: c'est la plus grande miséricorde que vous m'ayez faite. Cette maladie, Seigneur, c'est la plus grande miséricorde que vous m'ayez faite. Il écrit ça dans ses lettres. Alors moi, je n'ai pas beaucoup souffert, donc je ne sais pas trop comment je réagirais. Mais je ne suis pas en général à rendre des grandes actions de grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ta miséricorde. Il y a un petit problème dans notre vie. Et en fait, en déployant un peu la vie de Saint Claude, eh bien, on découvre qu'au fond, il vit l'expérience de l'Exode. C'est-à-dire, Dieu dit dans l'Exode, Exode 3, « J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu. » Voilà. Et donc, Claude expérimente qu'au cœur de sa maladie, au cœur de son épreuve, Dieu est là avec lui. Dieu n'est pas la cause de l'épreuve, mais Dieu est présent avec lui au cœur de ses épreuves. Voilà, Dieu n'a pas dit: si tu me suis, ne t'inquiète pas, tu verras le bonheur que je te propose. Il dit: si tu veux me suivre, tu prends ta croix, tu marches derrière moi. Et donc, lui qui porte sa croix découvre que le Christ est avec lui pour l'aider à porter sa croix. Donc il y a une conversion forte dans cette expérience du cœur passionné de Jésus, de découvrir justement cette présence de Dieu au cœur de notre vie. Et puis le deuxième aspect, qui est sûrement l'aspect encore plus fort, c'est cette confiance que rien ne le séparera de l'amour du Christ, et notamment pas son péché. Vous voyez ? Et ça peut être une épreuve dans notre vie, dans notre difficulté à croire en la miséricorde de Dieu pour nous. Non pas seulement: qui es-tu, Dieu, pour permettre que je sois malade si tu m'aimes, mais comment tu peux m'aimer parce que je suis un pécheur ? On pourrait dire: je ne suis pas une sainte comme Marguerite Marie, je ne suis pas un saint comme Saint Claude, alors Seigneur, ce message de ton cœur passionné n'est pas pour moi, il est pour Marguerite Marie, il est pour Saint Claude. Eh bien, l'expérience, elle est pour nous. Alors, peut-être pour vous aider à le comprendre, quand Jésus a choisi Marguerite Marie, il va lui donner cette parole. Donc, il en donne deux. Moi, je vous invite surtout à garder la première, surtout si vous êtes marié. Je vous invite à dire souvent à votre femme: mon cœur est passionné d'amour pour toi. Bon, en général, elles aiment bien. Mais par contre, il faut essayer, ça marche. Mais si vous dites, par contre, ceux qui sont mariés, je vous invite à ne pas essayer la deuxième parole. Jésus explique à Marguerite Marie pourquoi il l'a choisi. Et il lui dit: je t'ai choisi comme abîme d'indignité et d'ignorance. C'est une certaine déclaration d'amour. Veux-tu prendre pour épouse Marguerite Marie? Oui, je l'ai choisi comme abîme d'indignité et d'ignorance. Et toi, Marguerite Marie, je vais réfléchir, moi. Donc, en fait, je trouve que c'est une très grande parole de miséricorde, justement. Miséricorde pas tant pour Marguerite Marie que pour nous. Parce que si Dieu a choisi Marguerite Marie, abîme d'indignité et d'ignorance, et lui a donné de découvrir tout l'amour qu'il a pour elle, eh bien, si nous sommes un abîme d'indignité et d'ignorance, qu'est-ce qui nous empêche de vivre la même expérience que Marguerite Marie? Marguerite Marie n'est pas plus indigne que vous et moi, on le dit à chaque messe: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Vous voyez ? Mais quand elle découvre l'amour de Dieu, elle se dit: mais je ne suis rien. Et on pourrait croire que Jésus nous dit, mais si, si, tu es quelqu'un de très bien, c'est pour ça que je suis venu te voir. Eh bien, ce n'est pas ce que Jésus dit à Marguerite Marie. Jésus dit à Marguerite Marie, tu as raison, tu n'es rien. Mais ce n'est pas le problème, puisque c'est moi qui descends. J'ai vu ta misère et je descends. Donc si vous avez l'impression d'être au fond de l'abîme, eh bien Jésus peut aussi descendre, jusqu'au fond. Et si vous dites, ah non, moi mon père, je ne suis quand même pas au fond de l'abîme, alors si Jésus peut descendre au fond, il peut s'arrêter quelques marches avant. Donc je vous invite à travers ça, voilà, et avec cette confiance de Claude, hein, Seigneur, certains s'appuient sur leurs richesses, d'autres mettent leur force dans leur aumône, dans leur jeûne, dans tout ça. Moi, je ne mettrai ma confiance que dans ma confiance même. Voilà. Ma seule confiance, elle est dans le fait que je sais, Seigneur, que tu es Dieu, que tu m'aimes et que c'est toi qui fais tout. Et que tu viendras toujours me chercher. C'est une reprise de saint Paul, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Voilà, donc cette expérience fondamentale de la miséricorde, révélée à Marguerite Marie, contemplée et accueillie par saint Claude, et qui nous est donnée, et qui est donnée à toute l'Église par la fête du Sacré-Cœur. À cette première expérience, on va arriver dans une deuxième expérience, la deuxième apparition, qui est un peu un tournant, c'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter là, mais justement, cela ne suffit pas à Marguerite Marie. Et là, on va comprendre mieux le thème de la consolation. C'est-à-dire que Marguerite Marie ne se suffit pas seulement d'être aimée par Dieu, elle veut rentrer dans une réponse d'amour. « Moi, Seigneur, j'aimerais te rendre amour pour amour. » On retrouve cette expression-là à la troisième apparition. Mais déjà, vous voyez, c'est l'attitude du cantique des cantiques. Hein. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. » Ma joie n'est pas seulement d'être aimée de Dieu, un peu encore dans une attitude un peu de consommation. Hein. « Seigneur, je veux recevoir ta miséricorde. » Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et nous avons donc cette deuxième apparition où Jésus va exprimer justement quelque chose qu'elle peut faire pour lui. Et donc ceux qui connaissent Parel Monial, ceux qui sont venus, c'est cette fameuse mosaïque qui est dans la chapelle des apparitions où nous voyons le Christ avec ses plaies glorieuses, avec ses plaies glorieuses, oui, de chacune de ses plaies sort une fournaise ardente. Et Jésus exprime de quel amour il a aimé les hommes et s'il avait pu faire davantage que ce qu'il avait fait pour montrer son amour pour les hommes, il l'aurait fait. Donc il a été jusqu'au bout en donnant sa vie pour les hommes. Alors il faudrait reprendre tous les concepts, parce que reprendre saint Paul, hein, donner sa vie pour quelqu'un de juste, cela va encore, donner sa vie pour un pécheur, voilà. Mais donner sa vie quand on est mortel, ça va. Un jour ou l'autre, on va mourir. Pardon, c'est un peu violent comme déclaration, mais un jour ou l'autre, on va mourir. Voilà. Mais quand mourir, alors que nous ne sommes pas faits pour mourir, alors que nous sommes Dieu, mourir pour une créature alors qu'on est le Créateur, vous voyez, il y a quelque chose d'une amplification qui nous aide à comprendre que le don du Christ, quand Jésus dit « si j'avais pu faire davantage que ce que j'ai fait », c'est plus simplement aussi que donner sa vie, c'est Dieu qui rentre dans la mort. Et si j'avais pu faire davantage, je l'aurais fait, mais en reconnaissance, dit-il, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes pour les mépris et les froideurs qu'ils ont pour moi. Et c'est là qu'il va faire sa demande à Marguerite Marie. « Toi, au moins, supplée à leur ingratitude. Supplée à leur ingratitude autant que tu pourras être capable. » Alors peut-être qu'il faut expliciter un peu plus, de manière plus simple. Donc Marguerite Marie, au fond, ce qu'elle veut faire, c'est un cadeau au Seigneur. « Seigneur, tu me fais le cadeau de ton amour, mais moi, j'aimerais te faire un cadeau. J'ai encore plus de joie de faire un cadeau que d'en recevoir un de toi. Quel est le cadeau qui te ferait plaisir ?» Eh bien, ce que Jésus lui exprime, le cadeau qui me plairait, c'est que toi, tu accueilles mon amour parce que tellement de personnes ne veulent pas de mon amour. Vous voyez, la première attitude pour consoler Jésus, c'est est-ce que nos cœurs sont ouverts pour accueillir l'amour de Dieu ? Est-ce que je peux déployer ma miséricorde dans ton cœur ? Alors, lorsque vous voyez cette scène, avec ces cinq plaies, eh bien, on se retrouve comme saint Jean au pied de la croix. Au pied de la croix se tenait Marie, et près de Marie, le disciple que Jésus aimait. Et tous les autres disciples se tiennent à distance, nous dit saint Luc. Seul Jean reste comme disciple au pied de la croix, avec les femmes. Donc, on retrouve cette dynamique. Voilà les ingratitudes que Jésus reçoit. Est-ce que toi, tu veux bien recevoir mon corps livré ? Est-ce que toi, tu veux bien recevoir mon sang versé ? Et ça va reprendre les demandes que Jésus a faire à Marguerite Marie. Il fait trois demandes particulières. Première demande, est-ce que tu peux communier autant que l'obéissance te le permet ? Donc c'est cette invitation à communier. Bien sûr, tu vas à la messe le dimanche, tu communies. À l'époque, on ne communiait pas souvent. Hein. Mais autant que l'obéissance te le permet. J'aimerais insister sur cette expression-là parce qu'elle n'est pas du tout scrupuleuse. Jésus ne dit pas, si tu ne viens pas plus que ça, attention. C'est autant que l'obéissance te permet. Tu ne peux pas parce que tu as une mission, parce que tu dois t'occuper de tes enfants, parce que tu dois... Eh bien, ce n'est pas grave. Mais si tu le peux, j'aimerais pouvoir demeurer en toi. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Ah. Seigneur, je ne viens pas seulement à la messe pour te recevoir, je viens à la messe parce que tu veux demeurer en moi. Je n'ai pas forcément envie de venir aujourd'hui, mais toi, tu veux venir à moi. Alors là, je ne peux pas, donc je t'offre cela. Et on peut retrouver d'ailleurs toute cette partie de la théologie de la communion spirituelle, hein, qui peut s'exprimer dans le fait de ne pas pouvoir aller à l'Eucharistie. On raconte ça de Marguerite Marie dans son enfance, où alors qu'elle était chez sa marraine, elle montait sur le sommet, elle voyait l'église à distance, elle disait « Seigneur, tu es là et j'unis mon cœur à toi. » Voilà, je ne peux pas peut-être te recevoir aujourd'hui, Seigneur, mais je vis cette communion spirituelle. Voilà. Mais si je le peux, eh bien, je suis heureux de venir pour pouvoir te recevoir, pour que tu puisses demeurer en moi. Jésus insiste particulièrement avec une deuxième demande. La deuxième demande, c'est la dévotion, la communion du premier vendredi du mois. Alors, pardon peut-être pour tous ceux qui sont très dévots au Sacré-Cœur, mais moi je ne me suis pas encore plongé beaucoup dans les 12 promesses, vous voyez. Mais déjà quand je vois Jésus qui promet pour ceux qui font les 9 premiers vendredis du mois une grâce extraordinaire, j'aimerais vous dire, Jésus ne dit pas les 9 premiers vendredis du mois, il dit les 12 premiers vendredis du mois. Vous voyez, Jésus dit chaque premier vendredi du mois. Donc voilà, accueillir cette grâce. Alors le premier vendredi, vous voyez, le lien au vendredi saint, cette invitation à communier dans une dimension, c'est de réparation. Je reviendrai après à la réparation avec la troisième demande. Donc, communion du premier vendredi. Bah, peut-être que tu ne peux pas communier en semaine ou différents. Mais premier vendredi du mois, là, je vais essayer d'y aller. Et justement, on rentre avec cette apparition dans l'attitude de l'amitié, le rapport de l'ami. Saint Jean ne vient pas au pied de la croix seulement pour recevoir quelque chose, il vient pour être avec son ami. Comment je rentre dans une culture de l'amitié avec le Christ. Vous voyez ? Troisième demande, eh bien, c'est la moins réjouissante d'une certaine manière, mais elle mérite d'être explicitée. Est-ce que chaque jeudi soir, entre 11h et minuit, tu veux bien te lever de ton lit et te prosterner face contre terre, et je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu vivre au jardin des Oliviers, laquelle tristesse te réduira pire que la mort ? Et là, je te ferai découvrir, alors je vais un peu plus vite, et là, il y aura deux attitudes dans cette mortelle tristesse que tu vas vivre. D'abord, tu demanderas miséricorde pour les pécheurs. Tu essaieras d'apaiser ma divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. J'aime bien ça parce qu'il y a tous les mots qu'on n'aime pas dans la foi chrétienne. Apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Comment ça, la divine colère ? C'était pas réservé à l'Ancien Testament, ça ? Il en parle encore au XVIIe siècle, Jésus, mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais reprendre. Et la deuxième attitude, en comblant l'amertume, pour adoucir l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pas pu veiller une heure avec moi. Donc, jeudi soir, 11h minuit, programme Mortelle Tristesse. C'est sur quelle chaîne ? Ah non, c'est au pied de ton lit. Voilà. Jésus nous invite quoi ? À faire quoi ? À l'accompagner dans l'agonie. Encore le mystère de l'amitié avec le Christ. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas suer des gouttes de sang. Mais en gros, pour reprendre une des deux demandes, c'est Jésus rentre dans l'offrande de sa vie, il donne sa vie pour nous, et à côté de lui, Pierre, Jacques et Jean sont en train de dormir. C'est plus proche. Donc Jésus dit à Marguerite Marie, est-ce que tu veux bien m'accompagner ? Tu veux me faire plaisir ? Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu m'accompagnes dans mon agonie parce que là, je suis tout seul. Et donc le jeudi soir, je t'invite à contempler l'agonie et à t'unir à moi dans l'agonie. Dans toute la tradition des exercices spirituels, vous vous mettez dans l'évangile de l'agonie et vous vous mettez à côté de Pierre, Jacques et Jean qui dorment et vous essayez de ne pas dormir. Et jusqu'à présent, vous rigoliez de voir les apôtres dormir, mais maintenant, vous ne rigolez plus parce que vous dormez des fois avec eux. Donc vous dites, ah ouais, en fait, moi aussi, je pourrais bien m'endormir. Et donc, vous rentrez dans cet accompagnement de Jésus. Encore une fois, hein, dans la tradition de la manière dont Ignace nous introduit dans la manière de vivre les exercices. Et donc là, dans double attitude, donc pour accompagner Jésus, encore l'amitié. Hein, Seigneur, c'est moi, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Notre fondateur disait, des fois, vous n'avez pas grand-chose à dire dans la prière, mais c'est comme quand vous allez voir un malade. vous n'avez pas grand-chose à dire, mais vous êtes content d'être avec lui. Je ne viens pas là, autant la première apparition, c'est je me repose sur le cœur de Jésus et j'accueille son amour, autant ici, c'est Seigneur, je viens pour être avec toi, tu es mon ami et je viens pour être avec toi. Je ne demande rien. Saint Jean au pied de la croix n'a pas commencé à dire à Jésus, mon héritage, tu as oublié, tu ne m'as pas dit ce que j'allais avoir. Non, ma joie est d'être avec toi et j'accueille le don de ta vie. Et plus que cela, je vais rentrer dans les sentiments de ton cœur. Qu'est-ce qui habite ton cœur, Jésus? Et là, nous entendons, apaise ma divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Alors, quelques petits mots pour expliciter cela. Premier mot, c'est apaise ma divine colère. Donc d'abord, c'est pas... Il ne faut pas que vous preniez la colère, la plus grosse colère que vous avez reçue de vos parents et vous l'amplifiez en disant « c'est Dieu, ça oh. ». Non, c'est une colère divine, ce n'est pas une colère humaine, divinisée. Donc je pense qu'il ne faut pas caler ça de la même manière. Deuxième aspect, donc, eh bien, c'est de demander miséricorde pour les pécheurs. C'est toute l'expression de, que, qui va être... Donc c'est le thème de la réparation hein, et qui va être déployé jusqu'à Sainte Faustine. Enfin, Thérèse et Faustine vont redéployer ça. Mais je demande miséricorde pour les pécheurs. Moi, je comprends comme cela, de manière simplifiée, hein, excusez-moi si c'est trop simple, mais Jésus est le Sauveur qui est venu pour les pécheurs. Pour reprendre l'image qu'il donne, je suis le médecin qui vient chercher le malade. Et le malade, eh bien, moi, le médecin, j'ai le médicament pour le malade. Et le malade ne veut pas le médicament. Et moi, ça, les bras m'en tombent, c'est voyez, eh bien le pécheur, j'ai la miséricorde pour le pécheur et le pécheur ne veut pas de la miséricorde. Je suis le sauveur et le malade, le pécheur ne veut pas du sauveur. Voyez, eh bien intercède pour moi en demandant miséricorde pour les pécheurs, que les pécheurs puissent accueillir ma miséricorde. Voyez, nous avons déjà tout le thème de la réparation et de l'intercession pour les pécheurs. Alors on le retrouve plus tard avec Thérèse de l'Enfant Jésus qui va dire, moi je suis rentré au Carmel pour prier pour les pécheurs, pour sauver des âmes et aussi pour prier pour les prêtres. Et puis, avec Sainte Faustine, justement, 10 ans avant l'ouverture d'un camp d'Auschwitz, Jésus va dire à Sainte Faustine, intercède pour les pécheurs et notamment chapelet de la miséricorde. Vous voyez ? Et il ne dit pas intercède pour les victimes, il dit intercède pour les pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans 10 ans, il y a un camp d'Auschwitz qui s'ouvre, prie pour les nazis. Pas prie pour les victimes, parce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire. Prie pour les nazis. C'est comme si Dieu nous disait aujourd'hui, prie pour Daesh. Je ne veux quand même pas prier pour celui qui a tué mes enfants. Jésus dit, Jésus ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il nous unit à cela, dans le mystère de la croix, dans ce mystère, dans cette deuxième apparition, pour intercéder pour les pécheurs, pour nous laisser habiter par ceux qui habitent son cœur, et que nous entrions dans cette dynamique de la miséricorde. Voilà. Intercède pour les pécheurs, demande miséricorde pour les pécheurs. Alors Marguerite Marie l'a vécu, comme je vous le disais, des fois dans des gestes un peu violents, et Jésus la reprend, et puis petit à petit, eh bien, on le voit avec Faustine et le chapelet de la miséricorde, justement, que cette intercession par les pécheurs, elle se fait par des choses très simples. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas le sauveur, c'est Dieu qui sauve. Et à travers ces gestes simples comme un chapelet de la miséricorde, eh bien, nous nous unissons au Christ qui est le seul sauveur. Donc dans ce mystère, eh bien, nous rentrons dans le mystère de Jésus sur la croix et nous rentrons dans cette amitié avec le Christ et nous nous unissons au Christ. Marguerite Marie est celle qui va voir le cœur de Jésus, c'est la seule qui voit ce qui habite le cœur de Jésus, ce cœur ouvert et l'intérieur du cœur de Jésus. Et donc elle rentre dans ses sentiments de cœur de Jésus et elle rentre dans ce désir de sauver tous les hommes. J'avance pour arriver à cette troisième apparition, qu'on appelle la grande apparition, mais qui est assez simple, puisque Jésus dit à Marguerite Marie, je ne vais rien t'apprendre de nouveau. Donc moi non plus. En fait, il y a cette grande parole qu'il déclare, hein, qui est un peu celle qui résume par Elmonial. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Nous retrouvons ce thème de la première apparition. Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Sauf que d'une certaine manière, si autant dans la première apparition j'ai insisté sur ce pour moi, pour toi en particulier, là on revient sur ce déploiement de pour les hommes. Et ne recevant pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences, leurs sacrilèges, par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Alors là, il y a une petite allusion historique hein, que le père Glotin et ses collaborateurs ont essayé de mettre en évidence, notamment dans la Bible du cœur de Jésus, le tome 2, sur quel est ce contexte, c'est quoi ce mépris, ces froideurs, ces sacrilèges sur le sacrement d'amour. Et donc, il y aurait peut-être un lien avec les premières messes noires qu'il y avait dans la cour du roi. Voilà. Et donc Jésus d'ailleurs se présentera comme le cœur brûlant d'amour, ce soleil rayonnant, hein, pareil au roi soleil de France, le vrai roi soleil qui se révèle. Et en tout cas, il demande réparation pour les sacrilèges qu'il y a sur l'Eucharistie. Le sacrement d'amour, c'est l'Eucharistie. Ça, c'est pour le contexte historique. Mais nous retrouvons donc ces deux pôles. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. La nouveauté de cette apparition, c'est que Jésus va demander la fête du Sacré-Cœur, donc le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement. Alors, pour être très simple, à l'époque, le Saint-Sacrement était fêté le jeudi. Je ne sais pas en Belgique si vous le fêtez le jeudi ou le dimanche. Le jeudi. Très bien. Donc 8 jours après le Saint-Sacrement, le jeudi, c'est le vendredi. Nous, en France, on le célèbre le dimanche. Donc, c'est devenu le 5 jours après. Et donc, Jésus demande une fête. Et à travers cette fête, il y a une universalisation de l'expérience de Marguerite Marie. Ça ne reste plus seulement dans une expérience particulière. Par la fête du Sacré-Cœur, Dieu invite tous les hommes à plonger dans le mystère de son cœur. Vous voyez ? Et donc, la grande question dans la fête, pour vulgariser, c'est aussi comment est-ce que nous aidons, comment est-ce que nous faisons entrer les autres dans la miséricorde de Jésus ? Comment nous sommes collaborateurs du Christ dans cette manière de conduire les hommes dans le cœur de Jésus ? Alors c'est pour ça que je vous ai mis le texte de Jean 21, parce que ce texte justement où le disciple bien-aimé est dans la barque et il est le seul à reconnaître Jésus sur le bord du rivage. Et vous aurez remarqué que Jésus ne commence pas à s'exciter sur la plage pour faire en sorte que les gens le reconnaissent. Il ne fait pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de grand signe qui apparaît. Il ne dit rien, mais c'est le disciple bien-aimé qui va dire « c'est le Seigneur ». Il ne va pas faire un grand discours. Trois mots, c'est le Seigneur. Et Pierre va avoir comme un réveil intérieur, se replonger dans l'eau. Il va s'habiller parce qu'il est nu, c'est le seul que je vois s'habiller avant de se jeter à l'eau. Mais voilà. Et il va suivre le Seigneur. Mais toute la force de ce texte est justement dans le fait qu'il n'y a pas de grand miracle, mais que c'est le disciple bien-aimé qui arrive à reconnaître Jésus et à aider son frère à le rejoindre. Or, c'est bien le principe d'une fête. Quand vous faites une fête chez vous, vous ne faites pas... Normalement, si vous faites une fête le samedi soir, vous n'êtes pas tout seul à la maison. J'ai fait une fête samedi soir, t'as invité qui ? Personne. Normalement, on en invite d'autres. Et voilà l'expression de Jésus, fais une fête Marguerite, je veux la fête du Sacré-Cœur. Que l'expérience que tu as vécue, eh bien tout le monde puisse y rentrer. Alors ça peut être un exercice très simple. Hein. Quelles sont les personnes que nous n'aimons pas beaucoup ? Comment Jésus nous dit, bah, tu vois, mon cœur est passionné d'amour pour lui. Mon cœur est passionné d'amour pour cette personne que tu n'aimes pas. Et si je reprends la première apparition, il poursuit, il dit, « Et ne pouvant plus contenir tout l'amour que j'ai dans mon cœur, je veux répandre cet amour. » Alors on se réjouit, il dit, « Seigneur, tu vas convertir mon voisin. Mon patron va enfin découvrir ton amour. » Tout le monde est détendu là. Sauf que Jésus poursuit en disant, « Et je veux répandre cet amour par ton moyen. » Et là, en général, on ne comprend plus la fin du texte. Il y a un problème, là. Tiens, c'est... Vous pouvez me traduire en irlandais ? Oh, pardon. Comment on traduit ça ? Par ton moyen, ça veut dire par toi. Jésus demande à Marguerite Marie que l'amour de son cœur passe par lui. Ça reprendra d'autres expressions. Je te constitue héritière de mon cœur. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à ton amour. Toute la dimension d'évangélisation est déjà comprise dans cette apparition-là. Il y a tout dans la première, en fait. Vous voyez, je veux répandre ces flammes par ton amour. Et donc c'est l'appel, et là, vous prenez le pape François et vous en avez à toutes les pages, comment nous sommes invités à être signe de la miséricorde. Signe de la miséricorde de Dieu, comme Saint Jean, à aider nos frères à reconnaître Jésus dans leur vie, à les conduire nous-mêmes à Jésus. Et Jésus ne va pas passer par un ange, l'ange c'est chacun d'entre vous, l'ange c'est nous. Dieu veut passer à travers nous pour montrer son amour et sa miséricorde. Alors, d'une certaine manière, la conclusion de cet enseignement, parce que je pense qu'il est l'heure, c'est de cette expérience fondamentale de Marguerite Marie, nous sommes invités à y rentrer, d'une certaine manière, pour reprendre une image, je vais reprendre l'image de la maison fondée sur le roc. Le fondement de l'expérience de Marguerite Marie, c'est cette découverte qu'elle est de l'amour passionné de Jésus pour elle. Voilà. Le roc qui lui permet de traverser toutes les tempêtes, qui aide nos frères persécutés à rester fidèles, et qui nous aide nous aussi à continuer notre chemin, c'est de savoir, Jésus qui nous dit, je suis passionné d'amour pour toi. Sur ce roc, eh bien, on peut mettre les piliers. Les piliers, c'est cette deuxième apparition, c'est cette amitié avec Jésus. Marguerite Marie veut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et Jésus lui montre comment rentrer dans cette amitié. Voilà, en demeurant avec lui, et en méditant ce qui habite son cœur, et en intercédant pour les pécheurs. En invitant à cette place de l'intercession. Troisième étape, c'est mettre un toit sur la maison. Hein. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, mais aime ton prochain comme toi-même. Donc comment tu rentres dans cette attitude d'aimer ton prochain? Voilà, eh bien, je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Et donc dans ce toit, la maison est faite et nous pouvons accueillir d'autres personnes dans cette maison. Donc n'attendons pas trop que les gens se convertissent par eux-mêmes, mais entendons cet appel à être signe de la miséricorde. Je me suis permis de conclure cette année de la miséricorde en reprenant l'image du pape François, du pape Jean-Paul II, en l'an 2000, quand il fermait la porte sainte, il disait « La porte sainte se ferme, et c'est un symbole du Christ qui se ferme, mais le cœur de Jésus reste à jamais ouvert. » À la fin de l'année de la miséricorde, j'aimerais pouvoir dire « Les portes de la miséricorde se ferment, mais c'est un symbole qui se ferme, parce que le cœur des chrétiens reste toujours ouvert. » Pour être signe de cette miséricorde. Que d'une certaine manière, ce ne soit pas seulement le cœur de Jésus, mais nos cœurs à chacun d'entre nous, qui puissent être signe de cette miséricorde de Dieu, et que dans cette communion avec le Christ, eh bien, on puisse apprendre, nous aussi, les uns les autres, à aimer comme Jésus. Je vous ai mis en titre du troisième élément, aimer avec le cœur du Christ. C'est une prière de Paul VI, quand il était encore que cardinal Montini, et qui s'adressant aux laïcs, au deuxième congrès mondial pour les laïcs à Rome, en 57, je crois, écrit « Nous aimerons ceux qui nous aiment, nous aimerons ceux qui ne nous aiment pas, nous aimerons les chrétiens, les catholiques, les schismatiques, les musulmans, les païens, tout ça. Nous aimerons notre culture, notre art, notre sport. Nous aimerons avec le cœur du Christ. » Voilà, je m'arrête sur ces mots-là.